De retour dans Trudeau-Landry, Jonathan Trudeau en compagnie de celui qui est pro-gouvernement.
Ah oui, je suis pro-gouvernement.
Mais pro-Donald Trump, à la fois.
Ben, quand quelqu'un m'écrit que je suis pro-gouvernement, je me dis, ouais, mais je dois être au centre, dans le fond, parce que je me fais souvent dire aussi que je suis trop anti-gouvernement. Donc, je dois être un gars de centre, finalement. Là, ça, je dois être d'extrême centre. C'est ce que je constate.
Ben, moi, c'est là que je considère que je suis. Là. Toi, t'es peut-être plus à droite quand même. Là,
ben, moi, je suis très à droite économiquement, puis de plus en plus, mais de moins en moins à droite sur les questions sociales.
T'es-tu un libertarien? Te définis-tu comme un libertarien?
Non, ben, je suis pour la loi et l'ordre. T'sais, fait que puis moi je me suis gauchisé sur les questions sociales. Moi j'ai eu un tournant cet été avec l'histoire de George Floyd avec j'ai comme pris conscience, il y en a qui vont dire Landry t'es en retard, que voulez-vous, je suis très imparfait. Mais le racisme systémique, j'ai comme compris c'était quoi cet été. Je m'excuse là, je j'étais pas raciste là, mais le racisme systémique, c'est un concept.
Tu ne
parlais pas. Ben, pas sceptique. Je le comprenais pas, Nico. Puis je suis très imparfait. Il y en a qui vont dire, t'aurais dû comprendre ça avant. Mais je m'excuse. Je l'ai compris cet été, ce qu'était le racisme systémique.
Ben, c'est justement là où vous allez.
Fait que je suis de plus en plus à droite économiquement. Je suis de plus en plus enragé quand on abuse de l'argent que les travailleurs gagnent durement. Mais sur les questions sociales, je me suis gauchisé dans les derniers mois.
Justement, je vais te parler de racisme systémique parce que il y a une nouvelle qui a fait beaucoup réagir hier. Puis on faisait la chose. Tu sais, nous autres, on est en onde une moitié de journée, là.
Ouais.
On est en onde 4 heures de temps. Donc, des fois, on voit qu'il y a des choses qui se déroulent. On regarde ça sur les télés, mais on n'a pas le temps nécessairement de prendre la mesure. Hier, je voyais juste les images qui tournaient en boucle de Joyce Echaquan, qui est décédée. Cette jeune Atikamekw de Manawan qui est décédée à l'hôpital. Et je me disais, oh, Colin, tu sais, ça a l'air de faire réagir. Puis bon, François Legault qui a confirmé lors la conférence de presse de 13 heures que l'infirmière de Joliette qui prononçait des choses terribles dans cette vidéo-là.
D'ailleurs, je pense qu'on va le dire, ce qu'elle s'est fait dire. Puis
bon, on va l'écouter.
Oh, là, OK.
On va l'écouter. J'ai sorti l'extrait. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous le dis, là. C'est assez dur
à
entendre.
Mais le racisme systémique, là, c'est ça.
C'est exactement ça.
C'est
on va l'écouter.
Ouais.
T'as-tu fini de niaiser, là? T'as-tu fini, là? Aussi, je me calisse. Hey, t'es épaisse encore, là.
Elle t'a fait des mauvais choix, Madèle.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils pensaient, tes enfants, de te voir comme ça? Pense à eux autres, un peu.
Ouf!
Ça va loin, là. Il y a d'autres propos aussi, là.
Très, très, très raciste.
Très, très, très cru et très, très
par
raciste.
Rapport à l'argent qu'on donne à ces gens-là. Et, et c'était vraiment, là, et plus clairement que ça, tu meurs, là. C'était vraiment un exemple de racisme pitoyable, dégueulasse.
Oui, il y a pas. Mais racisme puis racisme systémique, là, il y a une nuance entre les deux. Je pense que des fois, il y a des gens qui sont pas racistes, qui vont se retrouver dans une organisation dans laquelle il y a du racisme systémique, puis ils vont appliquer le racisme systémique.
De façon inconsciente,
De façon inconsciente. C'est ça, le racisme systémique. Mais là, cet extrait-là, j'ai... Garde, on veut pas faire de procès, là. On est des gérants d'estrade, on jase le matin, là. On dirait chant du racisme. Pas juste le racisme systémique qui s'applique, des façons de faire habituelles. On sent une haine, on sent une agressivité haineuse envers des Autochtones.
Je t'écoute, puis ton analyse est intéressante, mais je me fais la réflexion suivante. Quand on parle de racisme systémique, quand on a parlé, découlant de l'assassinat de George Floyd, il y a beaucoup de gens qui vont s'obstiner sur la définition du racisme systémique. Est-ce que c'est un racisme qui est érigé en système? Est-ce que c'est le système qui a des réflexes qui sont racistes? Puis tu sais, il y a beaucoup de nuances à faire entre les deux. Et lorsqu'on parle, par exemple, des Noirs, je pense pas que la société, par exemple, est raciste en tant que telle, mais qu'il y a des réflexes qui sont ancrés dans, par exemple, différentes institutions.
Dans les organisations.
Dans la façon même de donner des loyers, d'accepter de signer des
bons,
de donner des emplois.
Exact.
Par contre, des fois, je me demande si, concernant les communautés autochtones, de façon générale, il n'y a pas un sentiment assez généralisé. Je fais bien attention dans ce que je te dis, là. Je dis pas que tout le monde dans la rue dise les Autochtones, c'est des ci pis des ça, mais le fait que y a des Autochtones qui vivent dans des communautés, dans des réserves, et qui soient pas pleinement intégrés à la société. Puis là, c'est pas un reproche, c'est une analyse objective que
factuelle.
Je pense que ça peut contribuer à ce que, de façon plus généralisée un peu, il y a des gens qui ont des préjugés. Si on dit que le racisme systémique peut beaucoup ressembler à des préjugés,
oui.
Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça.
Oui, mais écoute, c'est un sujet qui est complexe parce que ce que tu dis là est peut-être vrai, mais ce qui arrive souvent dans plusieurs secteurs au Québec, j'hésite à... Mais tu sais, il y a des gens qui nous écoutent un peu partout au Québec, là, puis je suis convaincu que ça va peut-être allumer quelques lumières. C'est que des fois, quand les Autochtones, bon, quittent la réserve et vont ailleurs, dans des bars, dans des établissements ailleurs, le racisme va s'appliquer quand ils vont ailleurs. Tu sais, ils vont arriver à quelque part dans une ville, puis il y a des organisations qui vont appliquer du racisme systémique. Fait que là, ils vont peut-être être plus portés après ça à retourner. Tu sais, c'est compliqué, là, à retourner sur la réserve parce que... C'est compliqué en tabarnouche. Puis moi, on m'a raconté des histoires. Encore là, je pointerai pas de région puis de secteur en particulier au Québec, mais... Puis heureusement, je pense qu'il y a une évolution, mais des histoires d'Autochtones battus par des policiers à 5 heures du matin, là, en arrière du poste de police, je les ai pas vus, mais on m'en a raconté, ouais. Là. On m'en a raconté, puis... Ça, je pense que... J'espère, en tout cas, que c'est disparu, mais ce que je vous raconte là, c'est pas des histoires en 1942, là. C'est des histoires dans les années 90, là. D'Autochtones, après des nuits... ça pouvait être des nuits bien arrosées, pour toutes sortes de raisons. Puis les policiers se gâtaient, puis les policiers étaient extrêmement violents le matin. On m'a raconté ce genre d'histoire, là. Ça, ça en est du racisme systémique. Puis c'est peut-être teinté par un policier qui est raciste pour vrai aussi. Je suis pas en train de dire que tous les policiers sont racistes, comprenez-moi bien, là, pas ça pantoute. Mais ça, en tout cas, c'est... Est-ce que les Autochtones vivent le racisme systémique au Canada de la même façon que les Afro-Américains vivent un racisme systémique aux États-Unis? Ça a sûrement déjà été le cas, en tout cas. Aujourd'hui, je pense que ça a évolué. J'ose espérer. J'ai pas fait de thèse universitaire là-dessus. J'ose espérer que ça a évolué, mais ça a sûrement, à tout le moins, déjà été le cas. Du
Est-ce que le racisme systémique, ou certains diront systématique, dans ce cas-ci, peut aussi se définir par une espèce d'indifférence? Parce que je considère qu'on est assez indifférent. Puis là, je vais apporter plein de nuances à ce que je vais dire. Là. Je considère que, de façon générale, on est assez indifférent à ce qui se passe dans les communautés autochtones. Probablement parce qu'on n'est pas assez exposé à leur réalité. Mais moi, pour être allé dans plusieurs communautés, à l'époque où je travaillais au gouvernement, notamment deux ou trois fois à Coudjouac, pour avoir vu la détresse de ces gens-là, moi, Jérôme, j'ai été... C'est-tu quoi le zoo? Pas l'émission de radio, là.
Non.
Le zoo qui est le seul et unique bar à Coudjouac, qui a des heures d'ouverture très précises, pas ouvert à tous les jours. Ça ferme, je pense, à 10h ou à 11h. Moi, à un moment donné, j'étais allé là, puis on avait des fonctionnaires de la SHQ qui étaient là, puis j'avais dit, je vais aller voir de quoi ça a l'air. Il m'avait dit à mon collègue et moi, t'es-tu certain que tu veux aller là?
Ouais.
C'est même risqué. C'est carrément le terme qu'ils employaient. J'avais dit, oui, je veux comprendre ce qui se passe, les réalités. Je suis rentré là, c'est une des scènes les plus désolantes que j'ai vues de ma vie. Des gens, là, la face à côté de sa table avec les bières devant eux, complètement là, éteints.
Ouais,
et
ouais,
je me souviens d'être sorti à l'époque que je fumais. On était sorti fumer une cigarette, puis il y avait une espèce de grande rampe d'handicapés, là, pour les chaises roulantes, en fait. Là. Et il y avait des gens là qui fumaient, puis il y avait une femme complètement saoule, qui était venue nous voir. Elle s'était même nous parler en anglais. « Hey, guys, how are you? » Puis tu sais, elle était vraiment là, inoffensive, bien sympathique. Puis en arrière d'elle, il y avait son chum qui se tenait, mais qui se tenait à peu près, là, qui penchait par en avant, par en arrière. Puis à un moment donné, il l'a pogné par le bras, puis il a dit « Je m'excuse de ce que je vais dire, là. Come on, you fucking bitch. » Et il l'a tiré. Et là, nous autres, on s'est regardé, mon collègue puis moi, puis on avait dit, ben voyons, c'est clair qu'elle s'en va manger une volée, cette femme-là. Là. Et on s'était fait dire, si tu interviens, tu vas peut-être te faire tuer. Tu sais, tout ça pour te dire que quand on va le vivre, là, on se rend compte qu'il y a une détresse qui est innommable dans ces communautés-là. Par contre, je reviens à l'espèce d'isolement qu'il y a. Et ça, là-dessus, si on veut que les choses avancent, il faut se tourner vers le gouvernement.
Ouais.
Mais aussi, il faut se tourner vers les dirigeants des communautés autochtones, les chefs, qui rendent très, très, très peu de comptes, qui vont chercher les chèques de milliards de dollars versés par le provincial, par le fédéral.
Ouais.
Et au moment où Stephen Harper, avant de quitter le pouvoir, avait dit, regardez, il avait passé une loi disant, vous allez être plus redevable, vous allez rendre des comptes. Pour qu'au moins on sache qu'est-ce qui se passe avec l'argent qu'on envoie dans les communautés autochtones. Justin Trudeau, lui, il a enlevé ça. Il a dit, non, ça ne nous regarde pas. Mais ça continue à être l'enfer dans ces communautés autochtones-là. Et plus que jamais, j'ai envie de dire, la population n'est pas sensibilisée à l'importance des aides.
Ouais, mais là, vois-tu, j'aurais un million de choses à dire sur ce que tu viens de dire là, Joe. Prenons ce qui s'est passé avec les chefs héréditaires. Là. On l'a oublié, hein, ce qui s'est passé avant la pandémie. Là, les blocus ferroviaires, exactement ça. Il y avait la participation des chefs héréditaires là-dedans. Puis des fois, les Autochtones n'étaient pas d'accord nécessairement avec ce que les chefs héréditaires disaient, puis ils ne se sentaient pas représentés. Puis trop souvent, malheureusement, je pense qu'on tente de régler les problèmes en faisant des chèques. Et il y en a au sein de certaines communautés qui disent « Parfait, c'est réglé, on a eu notre chèque. » Il n'y a comme plus de problème. Alors que le problème il est plus profond que ça. Puis on a souvent parlé des chefs sur différentes réserves. Ça, je pense que c'était plus ailleurs au Canada. Tu sais, les revenus annuels frisaient le million de dollars.
Ah non, mais ça n'a aucun bon sens.
Alors que la population était dans un état de pauvreté. Puis ce que tu décrivais sur le bord dont tu parlais, c'est que dans le fond, là, tu nous décrivais quelqu'un qui avait un problème de dépendance aux substances, probablement. C'est ça que tu nous décrivais.
C'était beaucoup de gens. Là.
Et là, tu parles de baisser les bras, tu parles d'indifférence. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Puis le racisme systémique, parfois, va s'exprimer de la façon suivante. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire « Oh, un tel ou une telle, regarde, il bouille tout le temps, on s'en fout, il se met dans le trouble. » Puis là, il y a des gens qui vont baisser les bras probablement devant certaines situations. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, là, parce que c'est. Faut pas tomber dans le préjugé, faut pas tomber
mais
dans le.
On n'a pas le droit.
On n'a pas le droit de tomber dans le préjugé, mais il y en a qui vont baisser les bras devant certaines situations en disant, garde, il n'y a rien à faire avec telle ou telle personne de telle ou telle communauté parce que il ou elle est tout le temps sous, tout le temps drogué, tout le temps ci, tout le temps ça, puis c'est là qu'on généralise. Puis finalement, ça vire peut-être comme ça virait à Joliette, là.
Sauf que c'est ça qui est inquiétant. Mais collectivement, on n'a pas le droit de baisser les bras. Je veux dire, ils sont comme ça, eux autres. Il faut absolument les aider. Mais en même temps, j'insiste tellement là-dessus. J'ai eu des super de belles conversations dans les dernières années avec Michel Audette, qui est une ancienne chef autochtone, qui a été commissaire là, sur la commission d'enquête et tout ça. Ouais. Et c'est toujours délicat de dire ça, mais il y a une espèce de aidez-nous à vous aider. Parce que je pense qu'on doit mieux intégrer les communautés autochtones. Et soyons très clairs, mieux intégrer ne doit pas nécessairement, ne doit pas tout court rimer avec assimiler. Tu sais, ils ont une culture qui leur est propre, qu'on doit conserver, des habitudes, des traditions. Je veux tout ça. Mais en même temps, s'ils étaient un petit peu plus intégrés dans la société, peut-être que ça ouvrirait davantage les yeux à la population générale sur l'importance de les aider.
On parlait des chefs, des fois sur des réserves, c'est de leur faute à eux autres. C'est pas la faute des citoyens, parce qu'eux autres, ils se retrouvent pris dans un espèce de cercle vicieux qui en finit jamais, puis il y en a qui vont tomber dans la dépendance, puis les situations sont pas toutes pareilles partout. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, puis ça fait longtemps que je suis pas allé, d'être allé à Betsiamite sur la Côte-Nord. Là, aujourd'hui, je le sais pas. Là, je veux pas parler à travers mon chapeau. Moi, ce que je te passe, il y a une quinzaine d'années, puis on voyait très bien que les conditions de vie étaient difficiles. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi c'est comme ça alors que des fois, il y a des aides gouvernementales. J'ai l'impression qu'il y en a certains, des fois, qui en profitent pour s'enrichir quand le gouvernement fait des chèques. Puis finalement, ceux qui en auraient vraiment besoin...
Ils rendent pas de compte.
Il y a exactement ça. Puis ceux qui auraient vraiment besoin d'aide, les enfants, les familles, les autres, ils sont comme pas atteints par l'aide qui est offerte.
Il semble y avoir, depuis des décennies au Québec et au Canada, un malaise qu'on peut pas vraiment nommer, là, t'sais, parce que t'sais, on veut pas intervenir, pis ça serait mal vu d'intervenir, puis bon. Mais en même temps, il y a des problématiques qui durent aussi depuis des décennies, qui semblent durer depuis des décennies, puis la solution commence sûrement par les gens qui sont au milieu de ces problématiques.
Il y a quelqu'un qui nous écrit au 25-226. En résumé, Stéphanie nous écrit, il faut pas culpabiliser toute la société non plus. Je pense pas que c'est de votre faute, Stéphanie, qui nous écrit au 25-226.
Complètement non plus.
Exact.
Mais du racisme systémique, c'est majoritairement inconscient. C'est ça qu'il faut pas oublier.
Oui.
On parle pas de systématique. Systématique, ça veut dire qu'à chaque fois... c'est intégré et c'est volontaire. Systémique, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gens des communautés X, Y, Z qui sont en poste pour adapter la culture générale des institutions à la réalité de ces gens-là. Ça, c'est un exemple. Il y a l'ignorance des réalités, et etc., etc. Là. Mais c'est pas... Je pense que majoritairement, c'est pas conscient du racisme systémique. Ça fait encore plus de difficultés pour que les gens se rendent compte que ça existe, à moins de le vivre, parce que c'est pas volontaire. Ouais. Des gens disent, moi, je suis pas raciste. Non, mais la structure dont tu fais partie, elle l'est, elle, sans le vouloir nécessairement.
En tout cas, ça passe beaucoup par la capacité à rendre des comptes. J'en partage une autre en deux minutes, là. Yellowknife, c'est assez loin au Canada. c'est le plus loin que j'ai été.
Yellowknife, ça peut pas être plus loin du Québec que ça.
C'est très très loin. Yellowknife, une conférence fédérale, provinciale, territoriale sur l'habitation. Donc il y a les ministres de toutes les provinces qui sont là, des sous-ministres et tout ça. Moi je suis là comme attaché de presse. Et un moment donné, après une réunion, on nous amène dans un TNO, un territoire non organisé. Donc, il n'y a pas de statut de municipalité, dans le fond. Ils s'organisent avec leurs propres règles, chefs de bande et tout ça. Et c'est tellement loin que non seulement on est à Yellowknife, mais on fait 2 heures d'autobus pour se rendre dans cette communauté-là, OK? Quand on arrive, l'événement a failli pas avoir lieu parce que, en l'espace de 2 jours, si je me souviens bien, les 2 sages du village, qui étaient un couple, les 2 plus vieux, sont décédés. Donc, il y avait un deuil épouvantable, ouais. Mais ils ont des représentants du gouvernement qui sont fiers comme ça se peut pas. Ils veulent nous recevoir, puis ils acceptent, malgré leur deuil, de nous recevoir. On se ramasse dans une espèce de salle, une espèce de gymnase, centre communautaire, et il y a une grande table en U. On est à peu près le 40 dignitaires, et le souper est déjà dans l'assiette. Eux autres sont bien, bien fiers de nous recevoir, OK? Le souper est déjà dans l'assiette, et c'est des saucisses hot dog, là, qui ont été cuites peut-être 4-5 heures avant. Pas assez cuite en plastique avec des petits biscuits qui ont pris l'humidité. Puis
j'en mange cru des fois, mais c'est un choix personnel.
Ouais, mais j'aurais aimé mieux cru que cuit, ça, okay. Que trop froidi. Okay. OK, on se regarde entre nous puis on est comme, my God, c'est donc ben dégueulasse. Tu sais, t'as quasiment envie de partir à rire, mais il y a un malaise. Puis c'était. Et là, on mange, puis on prend quelques bouchées. Puis là, avant les spectacles traditionnels, il y a quelqu'un qui nous demande, avez-vous fini de manger? T'sais, tout le monde, on a fini. Et cette scène-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Toutes les plus jeunes dans le local, des jeunes de 6, 7, 8, 9 ans, ont eu le OK pour partir en courant avec des sacs en plastique, souvent même troués, tout déchirés, pour ramasser toute notre nourriture qu'on avait laissée à nos places, parce qu'eux, ils étaient pour toffer une semaine avec ça. La nourriture que nous, on avait laissée, là, qu'on avait regardée...
Les autres, ils vont faire la semaine avec les enfants.
Je me souviendrai toujours d'un jeune qui remplissait son sac puis qu'on lui dit, hey, t'en mets trop. On essayait d'y parler, il comprenait pas ce qu'on lui disait. Le sac avait fendu. Le jeune s'est ramassé à terre, a essayé de tout ramasser ses affaires. Ça nous a fendu le cœur, mais à l'entrée de du TNO, là, il y avait 2 gros Christy pick-up qui devaient valoir 150 000 piastres. Ça, c'était les chefs.
Là, c'est ça.
Les chefs qui s'en mettaient plein les poches.
Ça, c'est l'image.
Donc, à l'imputabilité, à l'absence de reddition de compte, ça aide pas.
Ça, c'est l'image qu'on donne souvent, mais elle existe. L'image du gros pick-up.
C'est vrai.
Puis heureusement, peut-être finir là-dessus, Joe, heureusement, il y a quand même des histoires. Moi, je suis fier de ça, la cohabitation ici, dans la région de Québec, entre la nation Huron-Wendat puis le reste de la ville de Québec. Moi, dans ma tête, ils font partie de la ville de Québec, mais tu sais, je comprends le concept de la nation Huron-Wendat puis de monde, leur façon de... Mais ça, c'est un bel exemple de cohabitation. Fait que ça se fait. Ça se peut.
Absolument. Oui. Absolument. Donc, ça va se transférer sur le terrain politique en passant à Dominique Anglade, la chef libérale, qui a demandé la tête de la ministre des Affaires autochtones, Sylvie Damour, à l'Assemblée nationale ce matin. Alors, on va suivre ça. Ça n'a pas fini de faire réagir. 11h42, on s'arrête.
Trudeau Landry, de retour après la pause.